Le 20 avril 2026 se tenait l'Assemblée Générale de l'UDES, l'Union Départementale de l'Économie Sociale et Solidaire.
L'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises, les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur le principe de solidarité et d'utilité sociale, et non pas sur l'aspect lucratif. Pour faire plus court, on appelle ça l'ESS.
L'UDES, donc, c'est une union départementale, comme son nom l'indique, qui rassemble les acteurs de l'ESS des Hautes-Alpes. C'est la commune de Baratier qui a accueilli leur assemblée générale cette année. Christine Maxima, la maire, également suppléante de Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes, a bien entendu introduit l'assemblée. Marc Viossa, vice-président du département, était également présent au nom du président du département, Jean-Marie Bernard. Après ces premiers moments d'introduction par les élus, un premier temps a été accordé à un bilan de l'année 2025, puis à des projections pour l'année 2026. À l'issue de ce premier moment, Philippe Hébrard, secrétaire général de l'UDES, nous a réexpliqué au micro et en quelques mots ce qui venait d'être présenté.
Alors l'UDES 05, c'est d'abord une structure qui rassemble les partenaires de l'ESS dans le département. On rappelle toujours le chiffre, 20% de l'emploi privé, c'est-à-dire un emploi sur 5, alors qu'au niveau national, c'est 13%. Donc les Hautes-Alpes sont riches de leur structure d'associations, de coopératives et de mutuelles. Et le travail de l'UDES, c'est de valoriser ce travail-là, de défendre et de représenter ces structures auprès des pouvoirs publics. Alors, cette année, enfin l'année 2025, telle qu'on l'a exprimée, c'est une année qui a été une année de forte activité autour de notre vie associative et de la défense de nos intérêts, mais également autour de projets qui nous ont été confiés par l'État et le département. L'un projet qui est de l'animation de la conférence permanente associative des solidarités, dont l'objectif est de réunir les structures d'aide humanitaire dans le département pour faire valoir le travail qui est fait et essayer de modifier le modèle actuel qui est le modèle de l'aide alimentaire d'urgence. C'est un modèle qui ne fonctionne plus. Notre département, comme peut-être en France, se paupérise et on a une population qui devient pérenne dans ces aides-là et les structures ont besoin de la faire évoluer. De remercier le département pour le dispositif SoliAgri, qui est un dispositif qui est vertueux puisqu'il permet à des producteurs locaux de vendre leurs produits à des structures d'aide alimentaire qui les cèdent aux personnes qui en ont besoin. Donc une nourriture plus saine. Deuxième projet, la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet qui vise, dans le complément de ce que je viens de dire, à apporter une modification de dispositif sur l'aide alimentaire pour que les personnes qui ont besoin d'être aidées deviennent actrices de leur nourriture, de leurs achats, notamment en bénéficiant d'une aide qui leur permet de pouvoir aller dans n'importe quelle structure au même titre que n'importe quel citoyen dans ce pays.
Alors là, les deux projets dont vous venez de parler, donc, qui sont complémentaires l'un et l'autre, vous avez beaucoup agi en 2025, ça n'est pas nouveau, hein, ces préoccupations-là. Qu'est-ce que vous avez fait en 2025 et quels sont vos objectifs en 2026 autour de ces deux projets-là particulièrement ?
Alors en 2025, sur la conférence permanente associative des solidarités qui se réunit 4 à 5 fois par an, l'objectif c'est de débattre sur les chantiers qui nous concernent et notamment en lien avec le département qui vient de lancer un observatoire départemental de la précarité alimentaire. Donc notre objectif est d'être en phase avec cette politique départementale. Ça ne veut pas dire qu'on est inféodé à la politique départementale, mais ça veut dire en tout cas qu'on apporte des éléments pour que le département puisse se situer par rapport à cette politique, d'ailleurs qu'il entreprend de manière assez volontaire. La sécurité sociale de l'alimentation, il y a un travail d'expérimentation qui est en train de se construire pour, à partir de 4 pôles sur le département, l'Embrunet, le Champsaur-Valgo, le Gapensé, le Buèche, mettre en place un début de ce que pourrait être la sécurité sociale de l'alimentation, qu'on appelle aussi dispositif mieux manger pour tous. Voilà, donc c'est un travail qui a été engagé en 2025, qui se fait pour la plupart par des bénévoles. Hein. On a une chargée de mission qui travaille à mi-temps sur les deux dispositifs, mais elle ne peut pas tout faire. Et donc il y a vraiment, moi je trouve, beaucoup d'énergie citoyenne autour de ces projets pour le mieux vivre dans notre société, et ce qui est d'ailleurs, je dirais, l'essence même de l'ESS.
On peut le dire d'ailleurs, ces deux projets-là prennent du temps à être élaborés et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et que vous souhaitez pérenniser, non seulement mettre en place, mais pérenniser également.
Alors effectivement, on est sur des modèles économiques qui ne sont pas encore stabilisés, qui fait que les collectivités sont bien sûr sollicitées, mais il faut qu'on arrive à avoir un modèle qui ne soit pas trop, surtout dans la période actuelle, qui ne soit pas trop 10 ans financièrement, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est tout un travail qui se fait sur ce modèle économique et aussi sur la fédération de toutes les initiatives citoyennes. Je citais tout à l'heure l'épicerie solidaire de la Ragne, Venn qui a lancé quelque chose, Guillestre, Briançon qui bouge beaucoup. Voilà, enfin, on sent qu'il y a des citoyens qui ont envie de s'engager pour un mieux vivre sociétal.
Ça, c'est des choses qui sont toujours réjouissantes à apprendre. Je voulais revenir sur le modèle de l'UDES et votre fonctionnement. Qu'en est-il de votre vie associative ? Vous avez évoqué là pendant le bilan que vous aviez du mal à fédérer autant que vous le souhaitiez toutes les associations du territoire.
Alors, bon, il faut regarder le côté positif et le côté négatif. 75 adhérents en 2025 sur environ 850 structures ESS dans le département. Mais je l'ai évoqué, on a souvent des têtes de réseau. J'ai cité la DMR, l'UDAF, ADELA, ALPAJACEP, qui sont des réseaux. Et les structures qui sont dans ces réseaux se disent « si ma tête de réseau est adhérente, est-ce que j'ai besoin d'adhérer ?» Nous, on pense que oui, parce qu'on a besoin, vous savez, c'est toujours le même discours, on a besoin d'une approche quantitative pour pouvoir dire au pouvoir public « vous voyez, on compte quand même dans ce département ». Alors, on a beau dire qu'on fait 20% de l'emploi, parfois, ça ne suffit pas. On représente actuellement, en 2025, 1300 emplois équivalent temps plein. C'est pas rien quand même. Hein. Donc, pour se développer plus, pour arriver à avoir plus d'adhérents, il faut qu'on ait une meilleure notoriété. Adhérer à l'UDES, ça rapporte rien. Je le dis parce que c'est comme ça, mais ça rapporte le fait que les structures de l'ESS sont évoquées auprès du département, auprès de l'État. Enfin, on est un des départements où on a un conseiller départemental chargé de l'économie sociale et solidaire, Madame Colonna. Donc c'est pas rien, ça veut dire qu'au niveau du département, on a un interlocuteur politique. Et bien sûr, on travaille très bien avec les services, notamment avec Madame Loz, qui est directrice générale adjointe du département. Au niveau de la DETS...
La DETS, c'est la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.
On travaille très bien aussi notamment avec David Nolot, qui est le directeur adjoint en charge des solidarités. Voilà, donc notre objectif, c'est de nous développer, mais on est conscient qu'on a un plafond de verre qu'il faut qu'on arrive à atteindre, qui est de 100 adhérents, ce qui déjà représentera une belle évolution si on arrive en 2026.
Bon, ce qu'on peut quand même ajouter, c'est que ça a été d'ailleurs évoqué par l'une des participantes à l'Assemblée Générale. Il y a aussi l'aspect qu'il y a un réseau par lequel on peut se construire un réseau en tant qu'association à travers vous, à travers l'UDES.
Alors effectivement, on diffuse un certain nombre d'informations à travers une lettre info qui permet de créer du lien entre les différents adhérents et d'ailleurs au-delà, puisque cette lettre est diffusée à près de 2000 exemplaires. Et donc elle permet de donner de l'information à la fois sur les initiatives. Il y a de très très belles initiatives. Par exemple, Essinou, qui est une toute petite structure sur le canton de Barcy-Lonnette, Ventavon, va créer un festival en juin qui va être de très grande qualité, avec par exemple l'avenue d'Isabelle Autissier qui va venir présenter une pièce de théâtre qu'elle anime. Voilà, donc il y a plein d'initiatives. Et puis, quand on est citoyen, il faut être curieux. Donc, aller chercher de l'info pour pouvoir... Et on a la chance sur notre territoire des Hautes-Alpes d'avoir vraiment une belle dynamique associative et des coopératives et des mutuelles. Le représentant des SCOP PACA disait qu'il était surpris de ce nombre de coopératives qui se créaient et qu'il avait du mal à expliquer. Mais effectivement, dans le Guillestrois, il y a énormément de coopératives autour, par exemple, de la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Il y a une coopérative qui marche très bien, qui est une SIC, la coopérative Co-Odyssée, qui fédère un certain nombre d'acteurs indépendants et qui sont au service de la population hautalpine. Donc vraiment, non, il y a vraiment un beau terreau dans les Hautes-Alpes.
Une très belle dynamique. Et puis, l'UDES, vous êtes la seule union à être représentative d'un département. Le reste des unions qui s'organisent autour de l'ESS sont plutôt régionales. Donc, il y a cet aspect local aussi qui est important. Alors, je voulais quand même aussi vous faire réagir sur l'aspect financier de la vie de l'ESS. Qu'en est-il pour vous à l'UDES déjà des finances, tout simplement la santé financière de l'UDES ?
Alors 2025 et 2026, ça devrait être bien. On a des financements de subventions qui nous sont apportés par l'État et le département sur les deux projets que j'ai cités, c'est-à-dire la conférence permanente associative des solidarités et Mieux manger pour tous, la sécurité sociale de l'alimentation. Pour le reste, on se débrouille un peu comme on peut. On a une subvention du département de 7000 euros, puis on a également nos cotisations. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des adhérents. Et puis, il y a un gros travail de bénévoles dans la structure. On a une chargée de mission qui est affectée sur les deux missions que j'ai citées. Le reste, c'est nous, les bénévoles, qui le faisons, le boulot. Donc voilà, s'il y a plus de gens qui ont envie de s'engager au service de l'ESS à travers leur structure, surtout, la porte est grande ouverte.
Ça, on en prend note. Je voulais aussi rapidement vous faire réagir sur la santé financière au global de l'économie sociale et solidaire. On pense notamment aux associations. L'année dernière, en 2025, il y avait eu une réunion qui avait été faite en juillet autour de ces problématiques-là, puisque ça commence à être un aspect difficile pour beaucoup d'associations.
Alors en 2025, c'était une année difficile. 2026, on pressent une année encore plus difficile. On constate déjà une réduction de l'emploi. Par exemple, Environnement et Solidarité dans le Briançonnais vient de licencier 2 personnes à titre économique. Donc on s'attend à effectivement des choses assez graves. On doit mobiliser nos acteurs et auprès des pouvoirs publics. On a un rendez-vous qui est fixé avec la représentante du préfet, Madame Dargon, et on doit rencontrer Madame Colonna, qui est donc déléguée à l'économie sociale et solidaire, pour souligner l'importance de l'emploi ESS dans le département. Enfin, je rappelle aussi souvent que le principal employeur privé du département, c'est une fondation, c'est la fondation Edith Selzer, plus de 450 salariés, presque 500 salariés, si j'ai bonne mémoire.
Donc quand même un poids important, et vous l'évoquiez tout à l'heure, 20% des emplois du privé ici dans les Hautes-Alpes sont assumés par des employeurs de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un poids assez lourd. Quel est votre lien avec le reste du monde économique au Alpin ?
Bonne question. Compliqué. Je pense que pour les représentants de l'économie privée, on garde encore une image d'une économie assistée, ce qui n'est pas vrai. Je renvoie les gens intéressés sur le site de la Cour des comptes et qu'ils aillent lire le rapport qui a été fait sur l'ESS. C'est la Cour des comptes, donc c'est a priori des gens qui savent ce qu'ils racontent. Et donc on s'aperçoit que l'économie sociale et solidaire est largement moins assistée financièrement que l'économie privée. Donc nous, on a besoin, et c'est complexe, de faire valoir notre image spécifique au service des populations et des territoires, sans résultat reversé à des actionnaires dans les Hautes-Alpes. Et je pense que tout le monde, et c'est Jean-Claude Hérault qui le disait, tout le monde a affaire quasiment tous les jours à des structures ESS. J'ai des enfants à faire garder, tiens, une crèche, ah ben c'est une crèche parentale. Ah, ma mère est vieillissante, il faut que je trouve quelqu'un pour l'aider. Ah tiens, il y a la DMR, etc., etc. Et on peut citer des exemples comme ça, Adela, avec les structures autour de la jeunesse et de l'éducation populaire, avec le GDOS, le comité départemental olympique et sportif, quand mon gamin il est dans une structure de club de football ou hockey ou ailleurs, quand mon gamin va au centre de loisirs, où il part en colo. Voilà, tout ça, c'est des structures de l'ESS. Donc on se rend compte quand même que finalement, dans notre vie de tous les jours, on a souvent affaire à ces structures-là, même si on ne les repère pas forcément.
C'est après une pause que l'Assemblée Générale a repris son cours. Cette fois-ci, pour un moment de débat sur la place des personnes physiques investies dans l'ESS, puis une proposition du Conseil d'administration de la mise en place d'une commission consultative des acteurs indépendants exerçant une mission dans le secteur de l'ESS.
Autrement dit, une proposition pour intégrer les acteurs indépendants dans les démarches de l'UDES.
Les échanges, d'ailleurs, ont rapidement tourné autour des évolutions de la vie économique de l'ESS.
Alors moi, les chiffres que j'ai, mais malheureusement, ils ont progressé depuis. J'ai pas le temps d'aller les chercher.
Jean-Claude Hérault, administrateur de l'UDES.
Qui ont été dévoilés il y a un mois à peu près, c'est qu'on a 12 305 emplois disparus au plan national sur 1,8 million de salariés. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est pas beaucoup. Mais il faut savoir que pendant la même période l'année passée, on créait des emplois. On créait 10 000 emplois, voire plus. Là, la différence est négative. Elle était positive avant, elle passe en négatif. Et on va demander à ce que soit mis en place au niveau départemental, par l'État, une espèce de cellule de veille pour qu'on suive la situation économique au niveau départemental. Parce qu'au niveau régional, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, a mis en place une cellule de veille avec la préfecture de région, mais il n'existe pas de cellule de veille avec la préfecture départementale.
Les échanges ont été longs et très riches. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous en rendre détail ici, mais à Fréquence Mistral, nous sommes certains qu'il y aura une suite et qu'ils porteront leurs fruits. Avant de vous quitter, laissons le mot de la fin à Philippe Hébrard.
Il y a aussi, dans nos structures, des structures qui diffusent de l'information et qui diffusent une information qu'on retrouve peut-être pas ailleurs. Voilà le mot de la fin.
Fréquence Mistral.